10h37, alors qu'on va avoir du plaisir dans les prochaines minutes. À chaque fois qu'elle passe en studio, elle fait réagir. Puis on va parler d'opposition aujourd'hui avec Nancy Doyon. On l'appelle communément SOS Nancy, Madame SOS, qui est coach familial. Salut Madame SOS, comment vas-tu?
Bonjour, bonjour, ça va très bien, et vous autres?
Ça va bien, ça va bien, on est content de te voir. Là, on va parler d'opposition. Et c'est quoi le problème à l'opposition? Il y en a qui font des carrières là-dessus, l'opposition. Bon, il y en a à Radio, il y en a à Ottawa, il y en a à l'Assemblée nationale à Québec. C'est quoi le trouble avec l'opposition?
C'est un peu plus tannant quand c'était à la maison, ça, je te dirais.
Quand c'est pas un choix.
Ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai essayé de m'impliquer à la fête de mes gars où je devais payer une partie du montant parce qu'il s'en va au laser tag avec ses amis. Il invite tous ses amis. Puis heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça va me coûter moins cher. Mais il m'a flushé. Il m'a complètement flushé. Il m'a dit, papa, t'es pas invité. C'est juste moi et mes amis. J'en reviens pas à
Alors,
quel point ces enfants-là sont effrontés, sont pas reconnaissants. On a tout fait pour eux. Hey, j'ai travaillé fort, 30 secondes. Ben, c'est sûr que leur mère a toffé 9 mois là, pour le bâtir. Ça. Mais moi, ça a été comme 30 secondes. Ça a été le plus beau 30 secondes de sa vie. Puis là, il est là. Puis là, je m'en occupe. Puis là, il me flush rendu à 11 ans. Ingrat.
Écoute, il vient d'attraper l'adolescence, probablement.
Tu penses?
Fait que,
c'est comme la grippe, ça?
Oui, c'est ça. Fait que t'en as pour une couple d'années à ce que...
À me faire rejeter puis à payer.
Exact. Exact.
C'est épouvantable quand tu y penses, hein?
Toi, t'es-tu déjà fait rejeter, soit Stancy, par ta fille?
Écoute, oui, moi, je me souviendrai tout le temps là, de la fois, justement vers ça, 11 ans à peu près.
11 ans.
Où ma fille me demande un livre pour aller au cinéma. Puis là, évidemment, il faut que je fasse la tournée de toutes les amies puis que j'y rentre toutes dans l'auto. Et là, je vais aller reconduire. Je fais, ouais, mais je pense que moi aussi, je vais aller écouter un film, tu sais, tant qu'à être là, puis aller rechercher après. Hein? Et ma fille de me dire, ben là, pas le même que nous autres, quand même.
Oh, okay,
je peux même pas être dans la même salle. Je ne m'assierai pas avec vous autres. Ben là, il y en a plein des films, maman.
Ça serait pas cool. Ça serait pas cool
non,
que tu sois dans
ça.
La même salle qu'eux autres, tu sais.
Il y a eu ça, puis l'année où j'avais enfin pu prendre une semaine de vacances à la semaine de relâche.
Ouais.
Et j'y annonce ça toute contente. J'ai une semaine, on va pouvoir passer la semaine ensemble. Elle fait... ben là, maman, toi aussi, t'en as des amis. Peut-être que tu peux faire des choses avec eux.
Oh, Seigneur! Hey, c'est fou quand tu y penses!
Ouais.
Moi, je suis rendu que je mixe mes amis de ma mère.
Tu
tout le monde ensemble.
Non, mais t'es rendu dans cet âge-là.
Mais
là.
Oui, non, mais là, ma mère, c'est ma meilleure chum. Ouais. On est ailleurs, là.
Parce que là ça, elle est revenue aussi, ma fille, maintenant, c'est correct.
Elle est revenue elle-même.
Ben oui, c'est ça.
Je suis peut-être un homme préhistorique, mais la job d'un père, c'est d'essayer de pousser son enfant vers l'âge adulte puis à être autonome, tu sais.
Oui.
Puis là, ben, je me rends compte qu'il commence à l'être un petit peu autonome, puis je me dis, OK, ben il y a peut-être une bonne part que moi et la mère, on a faite pour le rendre autonome, mais on veut pas qu'il soit autonome trop vite, parce qu'on vivra plus jamais.
Et pas trop!
Son 11 ans, mettons, c'est fini.
Non, mais même, tu sais, moi, ma fille est rendue à 25 ans, là, puis j'aime encore ça, tu sais, faire de la bouffe, puis elle me dit, mais maman, je suis capable de cuisiner, là. Puis là, tu sais, le bout qu'elle était étudiante, je dis, ouais, mais tu sais, t'as pas tout le temps de l'argent. Mais là, tu sais, elle est sur le marché du travail,
ouais.
Elle dit, je suis capable de payer mon épicerie. Je suis capable de faire de la bouffe. Oui, mais mon cœur de mère a besoin de t'envoyer de la bouffe quand tu es chez nous.
Oh,
j'ai besoin qu'elle ait besoin de mon corps.
C'est ça. Ben, écoute, on va s'en sortir. Ils s'en sont tous sortis.
Je pense
donc
que
on
tes
va
parents, toute ta vie aussi.
Ouais.
Ah, tellement.
Ah, oui,
tellement. Ma mère a fait ma sauce à spag jusqu'à son décès.
Mais fait le pire, c'est que je pourrais pas vivre sans la sauce à spag à ma mère, dans le sens que je peux faire ma sauce à spag,
ben
mais
oui.
Celle à ma mère est meilleure.
Ben meilleure,
c'est ça.
C'est ça. Ça te rappelle des souvenirs. On parle d'opposition. Est-ce que tous les enfants sont opposants?
En fait, presque. Puis tu vois, tu m'amènes où je veux aller. Je trouve que depuis quelques années, on parle beaucoup d'opposition puis de troubles de l'opposition. Puis je trouve que dans plusieurs cas, on mélange un peu tout. Tu sais, c'est normal qu'un enfant s'oppose. Presque tous les enfants qui ont un tempérament fort vont s'opposer à un moment donné. Fait que, tu sais, t'as un bout d'opposition assez intense entre 2 et 4 ans où ils veulent pas ramasser leurs jouets, ils veulent pas aller dans le bain, ils veulent pas sortir du bain, ils veulent pas mettre leur pyjama,
non,
ils veulent pas enlever
non,
le pyjama.
Non, non.
C'est ça, tu sais, fait que... Et ils vont s'opposer puis se braquer à toutes sortes de consignes, réagir fort, faire des crises... Tu sais, je dis souvent en conférence, tu sais, un enfant de 3 ans là, peut faire 10-12 crises par jour, puis il n'est pas défectueux pour autant. Tu sais, c'est un enfant normal avec un tempérament fort. Un enfant de 3-4 ans peut faire des crises qui durent 1h30, 2h, 2h30, se faire vomir, pitcher tout au bout de ses bras. Il n'est toujours pas défectueux. Ça reste un comportement normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il gagne par ses crises. Mais ce n'est pas un enfant qui est en problème. les crises, puis bon, l'opposition, après ça, ben, ça va varier à travers les années. Tu as des enfants qui ont plus un tempérament opposant, qui n'aiment pas se faire dire quoi faire. Tu sais, moi, ma fille, tempérament fort, a du pogner, c'est ça, des gènes de son père, bien entendu. Tempérament fort, ben, elle, plus je voulais qu'elle se mette une veste à ce temps-ci de l'année, moins elle voulait en mettre une. Plus je voulais qu'elle étudie, plus elle brêtait.
Est-ce que tu utilisais la psychologie souvent? Parce que tu me parlais de l'âge de 2 à 4 ans, là, puis là, il voulait pas changer pour aller à la garderie. Je disais, là, tu ne mets pas tes vêtements pour la garderie. Je veux pas te voir dans 5 minutes avec les vêtements pour la garderie. Je vais être fâché. Là, il était fourré, là. Est-ce qu'il ne pouvait plus s'opposer?
Ben oui, tu vois, ça, des petites techniques comme ça, des fois, ça aide.
Ouais. Ben, rendu à 40 ans, c'est un peu plus dur avec sa blonde.
Franchement.
Mais des fois, je réussis quand même.
Je ne veux pas que tu mettes ton déshabillé sexy, ma chérie.
Non, tu ne le mettras point. Pas.
Oh boy! Nancy, est-ce que c'est... parce que j'ai l'impression que, oui, c'est totalement normal, mais est-ce qu'il y a quand même un phénomène d'augmentation? Parce qu'on dirait qu'on entend des professionnels dans les écoles, qu'il y a comme une montée quand même de cette opposition-là. Ça vient
d'où, c'est ça, c'est qu'il y a une partie qui est normale. Maintenant, il y a des problèmes d'opposition, des troubles de comportement et des troubles de l'opposition avec provocation, qui là est un diagnostic normalement en pédopsychiatrie. Mais oui, il y a une augmentation de la violence chez les jeunes. C'est malheureusement pas vraiment documenté, en tout cas à ma connaissance. Tu sais, il n'y a pas de statistiques, mais n'importe quel prof va vous dire qu'ils ont beaucoup plus d'élèves explosifs dans leur classe. Dans les écoles, beaucoup plus de jeunes qui font des crises, qui se sauvent, qui virent la classe à l'envers, qui insultent les profs, menacent. Puis là, je parle des profs, mais on va parler du personnel scolaire au grand complet. Mes amis qui sont... moi, je suis éducatrice spécialisée dans la vie, puis j'ai travaillé en milieu scolaire, mais tu sais, mes amis qui sont encore là me parlent de situations où ils se font mordre, danser des chaises, insulter. Tout le monde a l'impression qu'il y en a plus.
Ouais, je te pose la question à toi. Est-ce que c'est le fait que les enseignants ont appris à être intolérants? Parce que je me souviens, moi, des années 80, où on allait à l'école, ça brassait quand même, mais les enseignants toléraient bien des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis aujourd'hui, ils ne laissent pas passer la moindre des petites affaires parce qu'ils ont peur qu'il y ait constamment une escalade, ce qui fait en sorte qu'ils sont constamment et tout le temps en train de faire de la discipline dans leur classe. J'ai l'impression que si on parle avec des vieux profs là, qui ont 80 ans aujourd'hui, ils sauraient nous dire si dans le temps ça brasse aussi. Moi, de mémoire, je me souviens d'avoir vu un enseignant manger un coup de dictionnaire par la tête ou recevoir des billes par la tête.
Tu n'as pas vécu dans le même milieu que moi.
Ah non, Cardinal Leroy, j'étais au secondaire à l'époque, puis l'autre bord, il y avait une école pour adultes qui s'appelait Wilbrod Bérère. Puis il faisait de la nourriture aussi. Là. C'était, il y avait comme un cours de cuisine. Puis il avait empoisonné un prof avec du pot. Puis le prof savait pas qu'il mangeait des muffins aux potes, puis il est parti en ambulance et tout ça. Je veux dire, c'était hardcore dans le temps aussi, mais là où je vous suis, c'est qu'il y en a plus des enfants tannants maintenant.
Ben, moi, en fait, une des affaires qui...
C'est à cause des Teletubbies?
Oh ben, mon Dieu! Oui, méchant! Po était dangereux!
Mais tu sais, ceux que ça intéresse, je vais en parler tantôt, là, mais tu sais, jeudi soir, je donne un atelier gratuit sur l'opposition, puis on regarde tous les facteurs de risque, toutes les causes qu'il peut y avoir derrière les troubles de comportement puis l'opposition sévère. Ceci dit, tu sais, la semaine dernière ou l'autre avant, il a sorti un article de la presse qui disait que, bon, ben il y a de plus en plus d'écoles qui enlèvent certains jeux ou certaines possibilités que les enfants ont de jouer librement dehors parce que c'est jugé comme étant dangereux. Donc, tu sais, peu de jeux libres. Puis moi, je l'observe partout. Dans la plupart des écoles, je vois qu'il y a de plus en plus de restrictions pour les jeunes. Donc, il y a de plus en plus d'écoles où les enfants sont obligés d'être en silence complet. Dès qu'ils mettent les pieds dans l'école, ils doivent manger en silence sur l'heure du midi et ils ont le droit de parler seulement quand ils sont dehors. Je vois de plus en plus d'écoles qui ont des règles hyper restrictives, du genre, dans la cour de récré, tu n'as pas le droit de faire des pirouettes. Dans la cour de récré, tu n'as pas le droit de gripper un enfant. Dans la cour de récré, tu n'as même pas le droit de tenir un ami par la main. Il y a des montagnes de neige l'hiver, tu n'as pas le droit de grimper dedans. T'sais, je comprends qu'on ne veut plus que les enfants jouent au roi de la montagne. Là, je veux dire, c'est comme, c'est un peu intense, puis il y a comme une espèce de trip d'intimidation. Moi aussi, j'aimais ça, mais ça, je comprends, tu sais, les rois de la montagne, mais que les enfants ne puissent plus glisser dans la montagne, ça me gosse.
Ouais.
Il y a de plus en plus d'écoles qui enlèvent les modules de jeu parce qu'il y a des enfants qui se sont blessés dedans. Donc, il y a de plus en plus de règles.
Surprotection.
Oui, il y a de plus en plus de règles restrictives, mais en même temps, quand je parle avec le personnel scolaire, c'est comme une espèce de cercle vicieux. Puisqu'il y a plus d'enfants en trouble de comportement, puisqu'il y a de plus en plus d'enfants qui, parfois, ont été surprotégés chez eux, donc ils n'ont pas développé une bonne notion du danger, tu sais, donc ils ne font pas attention, puisqu'il manque de personnel, bien, à un moment donné, ils sont obligés d'avoir des règles plus restrictives et préventives. Fait que, tu sais, si le ballon point, il y a bien de la chicane au ballon point, à un moment donné, ça prendrait, tu sais, les ballons points, là, les enfants, c'est une espèce de bord avec un petit ballon, puis les enfants peuvent taper dedans. Bien, s'il y a bien de la chicane là, à un moment donné, ils vont enlever le ballon point parce que ça prendrait quelqu'un, un surveillant à temps plein, pour gérer les chicanes.
Mais c'est là où mon oncle Marceau embarque, OK?
Ouais.
Plutôt que d'enlever le ballon point, on peut-tu trouver une façon de faire pour que les enfants règlent leurs conflits ensemble sans avoir l'intervention d'un parent constamment ou d'un enseignant ou d'un surveillant?
Bien, c'est là où je trouve que c'est un cercle vicieux. Plus on enlève tout ce qui crée de la chicane, moins les enfants ont l'opportunité de développer une saine affirmation de soi puis une saine résolution de conflit, parce qu'on évite le conflit.
Tu sais que tu m'as sauvé la vie, toi.
Comment ça?
Littéralement, tu m'as sauvé la vie parce que j'étais constamment dans avertir mes enfants. Elle dit, quand tu les avertis, ça prend combien de temps? Je dis, à peu près 3 secondes. Parfait. Avertis-les, mais prends 5 minutes.
Oui.
Puis si c'est pas suffisant, prends 10 minutes pour les avertir. Tu les fais venir devant toi, tu parles le plus lentement possible. Faut que tu sois le plus plate possible pour qu'ils se rendent compte à quel point ils perdent du temps de jeu quand ils chicanent. Toi, tu leur jases, t'es le plus plate possible. Fait qu'ils vont se dire, regarde, toi, c'est bien de régler ça, toi puis moi, pendant 10 secondes, au lieu d'aller voir le père en haut, le fatigant, qui va nous prendre 20 minutes de notre vie pour nous dire comment ça devrait fonctionner. Exact. Sérieux, cette technique-là a fonctionné chez nous.
Et elle fonctionnerait dans les écoles aussi. Mais c'est ça, on gère les trucs à court terme. Fait que là, on se dit, bon, ben, tu sais, puis dans beaucoup de familles, les gens font ça aussi. Telle affaire, ça crée de la chicane. Ben, on va régler la chicane, on va proposer la solution, ou encore, on va enlever ce qui crée de la chicane. Mais les enfants apprennent pas à chicaner, à résoudre leurs conflits.
Ouais. Le service est pas mal plus grand que ça. Là, moi, j'ai une tante qui travaille dans une école primaire, puis bon, de plus en plus, plus les années avancent, dépendamment d'où elle se retrouve, là, les classes sont plus grandes, les troubles sont plus grands. L'affaire, c'est que le personnel n'est pas présent, le personnel n'est pas au rendez-vous, il manque de monde. Ce qui fait qu'elle, à la base, est formée pour être enseignante, mais là, tout d'un coup, elle devient travailleuse sociale, tu comprends, puis éducatrice spécialisée, là, puis elle n'a pas de formation pour ça, elle doit s'occuper de tout le monde. Fait que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix de développer des trucs justement pour faire taire cette... Tu sais, c'est comme...
Exact.
C'est un énorme problème de société.
Tu sais, mettons, moi, je suis absolument contre les écoles qui obligent les enfants à dîner en silence. Je trouve ça épouvantable. Et je me dis, moi, comme employeur, là, si j'obligeais mes employés à dîner en silence, j'aurais un grief. Tu sais, je veux dire, ça ne fait pas de sens. Maintenant, j'ai travaillé en service de garde scolaire. Et je sais comment c'est tough de garder les jeunes à un ton de voix qui a de l'allure. Fait que là, t'as des enfants que sur l'heure du midi, ils auraient besoin de se reposer, mais c'est tellement bruyant dans la classe. Parce que là, tu sais, souvent, on dîne dans des classes ou on dîne dans des locales. Le local devient tellement bruyant. Puis là, ben, en les obligeant à manger en silence, ah, ben là, tu règles le problème en amont. Fait que là, ben, à rigueur, ils vont chuchoter. Fait que là, tu sais, c'est pas si pire. Puis, ben ils mangent plus vite. Fait qu'on peut sortir dehors plus vite. Puis, on peut les laisser s'amuser, tu sais, plus vite. Je comprends. Mais ça fait pas de sens. Tu sais, les jeunes, puis là, ben, à un moment donné, on les restreint tellement partout, tout le temps, que un, ils apprennent pas à se moduler, ils apprennent pas à s'autocontrôler. Puis, à un moment donné, puis je vais faire un drôle de parallèle, là. écoutez bien, je ne compare pas les enfants à des chiens, là, je compare la restriction à de la restriction. Mais tu sais, si j'ai un chien et que je le garde tout le temps avec une petite corde serrée sur le bord de la porte, la journée où il casse sa laisse, il sauve 4 quartiers plus loin. Un enfant ou un humain, ben, quand il y a trop de restrictions, quand il étouffe dans les restrictions, ben, à un moment donné, tout ce qu'il reste à faire, c'est essayer de déjouer ces restrictions-là. Donc, oui, en obligeant les enfants à manger en silence, on a l'impression d'avoir réglé un problème, mais on en crée un autre. Tu sais, puis moi, ça me fait capoter quand je vois que certains de mes petits clients, tu sais, j'ai des enfants, moi, qui sont hyperactifs, qui ont justement des troubles d'opposition, des problèmes de comportement, et là, finalement, ils perdent des points sur leur système d'émulation parce qu'ils ont chuchoté en mangeant. Et là, je me dis, my God, cet enfant-là, là, il vire des classes à l'envers. On peut-tu s'occuper juste de on peut-tu mettre la priorité à la bonne place? Et à quelque part, ce jeune-là, qui est tout le temps restreint, ben à un moment donné, il est tout le temps comme en train de se contrôler, puis de se maîtriser, puis d'essayer de tout faire, mais il se fait prendre en défaut tout le temps, puis à un moment donné, il explose. Fait qu'en restreignant trop, je pense que c'est un des facteurs qui fait augmenter les troubles de comportement puis les comportements perturbateurs dans les classes et dans les écoles.
Là, on dirait que j'en entends dire, oui, mais les parents, à la maison, y a-t-il un rôle aussi?
Je pense que c'est un tout. Là.
Ben, ouais. Absolument, c'en est un.
Ben, tu vois ça, dernièrement, je postais là-dessus les restrictions à l'école, puis là, je disais, ben, les pauvres enfants n'ont plus le temps pour bouger, puis là, ben, y avait forcément des enseignants qui disaient, ouais, ben, viens donc à l'école un petit bout, tu vas voir que c'est pas évident, je le sais, j'y étais. Puis d'autres disaient, ben oui, mais les parents, les parents le soir partent les enfants avec une tablette pour pouvoir faire leurs affaires tranquillement. Tranquille, puis ils vont pas jouer dehors avec les enfants. Oui et non, c'est faux. Il a été démontré que présentement, les parents passent deux fois plus de temps avec leurs enfants que nous dans notre temps. En tout cas, que moi, dans mon temps.
Ça dépend de comment était faite ta famille, mais la mère pouvait rester à la maison, puis le père travaillait ses jours.
Ouais.
Fait que lui, des fois, il avait besoin de se relâcher. Fait qu'il allait au bar le soir. On les voyait pas tant.
Non, mais c'est ça. Puis c'est drôle, il y a une analyse de données qui a été faite dans 11 pays, qui a été réalisée par The Economist. Puis ce qu'on dit, c'est que le temps que les parents consacrent à leur enfant depuis les années 60, mettons, là, pour faire un bon parallèle, ça a même triplé. Fait que tu sais, c'est là que tu vois que c'est capoté.
Fait que tu sais, c'est pas tout à fait vrai que les parents partent les enfants en avant de la télé puis qu'ils s'en occupent pas. Là. C'est, en tout cas, pas dans ce que je vois, moi. Oui, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Mais tu sais, des parents qui jouent dehors avec leurs enfants, des parents qui font des activités parascolaires puis qui amènent, c'est bon, les enfants. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est nettement en augmentation. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, des jeunes qui suivaient des cours de karaté puis des cours de hockey, puis tout ça, je veux dire, c'était pas la majorité. Maintenant, oui, la plupart des enfants pratiquent un sport, une activité physique en semaine ou les week-ends. Les fins de semaine, les parents partent en ski, partent en vélo, font de la randonnée, on en voit quand même beaucoup. Fait que c'est pas tout à fait vrai que les parents font pas bouger les enfants. Mais d'une manière ou d'une autre, tu sais, quand l'école peut pas dire, ben c'est pas notre rôle de faire bouger les enfants, ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un enfant de 7, 8, 9, 10 ans, ça a besoin de bouger plusieurs fois dans une journée pour que ses neurones soient optimales pour pouvoir apprendre. Fait que l'école ne peut pas pelleter dans le cours des parents, faites-les bouger, puis nous autres, on va les faire étudier. Mais l'inverse est aussi vrai aussi. Il ne faut pas que les parents pelletent dans le cours de l'école leur responsabilité de faire bouger leurs enfants. Puis,
Mais sais-tu que les enfants sont comme surstimulés, je vais l'utiliser comme ça, mais il y a trop, tu le dis, puis je trouve que c'est tellement un bon exemple maintenant. Ils ont 1000 affaires la fin de semaine. Puis c'est toutes des affaires qui sont le fun, mais des activités, des loisirs. Là, à l'école, c'est super encadré. J'ai comme l'impression que les enfants sont plus des enfants. Puis ça fait-tu partie du fait qu'il y a peut-être un petit trouble d'opposition parce que maintenant, même si tu as juste 11 ans, c'est peut-être trop?
Bien, écoute, ça fait partie des facteurs de risque, je te dirais. Là, puis je vais vous en déballer une batch là, de facteurs de risque pour les problèmes de comportement. Exposition aux écrans. Donc, trop de temps d'écran, augmentation de l'agressivité, augmentation des hormones qui vont créer des explosions agressives. Surstimulation au niveau, tu sais, justement, des 1000 activités. Stress chronique. Anxiété, ça va, c'est un des facteurs de risque. Dans les facteurs de risque aussi, on va voir un problème au niveau du lien d'attachement. Fait qu'un attachement qui ne se serait pas bien installé entre le parent et l'enfant ou l'enfant qui aurait vécu une blessure d'attachement. Des traumas affectifs, un enfant qui aurait vécu de la négligence, un abandon, un accident de voiture traumatique, une hospitalisation en bas âge, des choses comme ça. Ensuite, au niveau des facteurs de risque, ben, y a les habiletés parentales. Un encadrement trop sévère, trop punitif, un parent qui serait toujours derrière son enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Donc, un parent qui serait trop rigide, et ça, j'en vois beaucoup, là, j'appelle ça de la surintervention. La surintervention parentale, c'est un des facteurs de risque que je vois beaucoup. Donc, le parent qui en fait trop, qui met trop de pression, de perfection à son enfant, et là, ça fait un parallèle avec ce qu'on disait tantôt en milieu scolaire aussi. Trop de règles, trop de restrictions. L'enfant qui a comme l'impression d'être tout le temps surveillé et qui reçoit constamment des reproches et des critiques. À un moment donné, il se blinde. À l'inverse, un autre facteur de risque, puis celui-là, j'aimerais ça qu'on l'approfondisse un peu, c'est ce que j'appelle, bon, il y a la surprotection parentale. Tu sais, on parlait avant ça, il n'y a pas si longtemps, là, tu sais, des enfants rois, donc les parents serviteurs. Mais moi, ce que je vois de plus en plus, qui est un peu dans cette lignée-là, c'est la suradaptation parentale. Tous ceux qui me suivent savent que moi, je suis une grande adepte de la nuance en intervention. J'adhère pas aux approches très punitives. Je pense que les punitions, c'est pas une super façon d'intervenir. Puis, tu sais, l'approche punition-récompense, j'y crois pas tant. Je pense que c'est du conditionnement, puis je serai pas là-dessus. À l'inverse, on a vu beaucoup dans les dernières années arriver les approches en parentalité positive et bienveillante. J'y adhère, j'enseigne ces approches-là, sauf que parfois ça manque de nuances. Dans les dernières années, on a enseigné aux parents et aux intervenants à dire, bon, ben, quand un enfant se comporte mal, c'est le symptôme de quelque chose. Donc, c'est important de prendre du recul et essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a un besoin derrière ces comportements dérangeants? Est-ce qu'il y a une charge émotive? Puis, écoute, c'est le thème de mon premier livre, par un gros bon sens, là. Comprendre le sens des comportements pour agir sur la cause du comportement plutôt que sur le symptôme qui est le comportement. Ceci dit, ce que j'observe, c'est que puisque on a bien passé notre message, beaucoup de parents et d'intervenants n'agissent plus sur le comportement. Donc, ne mettent pas de frein et de stop au comportement dérangeant parce qu'ils comprennent pourquoi l'enfant le fait. Fait que, tu sais, il n'y a pas si longtemps, là, je faisais, à chaque année, je fais mon week-end parent leader en nature avec un paquet de familles. Et là, j'avais des parents qui se faisaient envoyer promener solidement par leur enfant.
Et mon
Dieu. Et que le parent, au lieu de réagir et dire « Hey, stop, tu vas me changer de ton puis on va retourner au chalet, ce sera pas trop long », le parent justifiait en disant « Oui, mais là, c'est parce qu'il a vécu une injustice du fait qu'il était supposé de passer en premier, puis l'animateur s'est trompé, puis il l'a passé en quatrième. »
Donc, ça justifiait le fait qu'il soit bête avec son père ou sa mère.
Oui, c'est ça. Fait que ça justifiait qu'il réagisse mal, puis que là, quand le parent intervenait, ben là, qu'il l'envoie promener. Et c'est là où je... Et je vois aussi de plus en plus de parents tomber dans la prévention excessive des crises. Mais en même temps, je comprends, ça aussi, c'est un servicieux. Si j'ai un jeune qui est très, très explosif, bon, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas très grave. Mais tu sais, quand il est rendu à 8, 9 ans, quand mon jeune fait des crises épouvantables, tu sais, je peux pas me le mettre en dessous du bras, je peux pas le rentrer dans sa chambre, tu sais, ça devient difficile à gérer. Donc, j'ai beaucoup de parents qui passent leur temps à marcher sur des œufs pour éviter que l'enfant soit frustré et qui demandent à tout le monde autour de marcher sur des œufs pour éviter que l'enfant soit frustré pour ne pas que ça génère une crise. Fait que, tu sais, exemple, il y a des familles où, le matin, le parent, quand il va réveiller l'enfant, le fait quasiment un peu sur la pointe des pieds, tu sais, en beurrant épais de « Bon, ça va être l'heure de se lever, mon petit minou d'amour, parce que là, hein, c'est une belle journée. » Et là, il en beurre épais parce qu'ils ne veulent pas frustrer l'enfant pour pas que le matin parte mal.
Cet enfant-là va exploser à l'école?
Ben c'est ça. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, puis là, après ça, j'ai une famille où c'est l'enfant opposant qui décide qui prend sa douche en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Fait que c'est comme, bon, OK, ce matin, qui tu veux qui prenne sa douche en premier? Fait que là, c'est le jeune de 9 ans qui se retrouve un peu en position d'autorité et qui décide de qui...
Si je serais tellement pas une bonne mère.
Non, mais non plus.
Ben, hey, Seigneur!
Ben non, mais c'est pas une bonne mère, ça. Mais, c'est... mais en même temps, je comprends, tu sais, je veux dire... Puis j'ai une maman qui me disait ce matin, elle disait, écoute, le matin, elle dit, je demande à mon enfant ce qu'il veut manger pour déjeuner, puis j'y prépare son déjeuner, puis j'y mets tout prêt, parce que sinon, si je fais pas ça, ben ça va y prendre 10 minutes à se décider sur ce qu'il va manger, puis on va partir en retard. Puis là, le soir, il me dicte ce qu'il veut avoir comme collation, puis j'y prépare toutes ses collations, oui. Pendant qu'il prend sa douche, pour que ce soit pas trop long. Puis elle me dit tout le temps, j'ai pas le choix.
Cette dame-là, qui est probablement bienveillante, là, elle m'écoute parler à la radio, puis elle me dit que je suis un dictateur. Là. Moi, mes gars me demandent, qu'est-ce qu'on mange à midi, ce qu'il y a sur la table?
Ben, tu sais. Mm-hmm.
Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas, mais vous allez manger ce qu'il y a sur la table. Puis à chaque fois, ils me font ah, ben moi, ça, j'aime pas ça, ben c'est pas grave, tu vas le manger, puis je t'en remettrai pas ce soir.
Ben,
puis
oui.
Ils le font, mais faut passer par là, faut utiliser notre rôle de parent à un moment donné. Là. Je veux dire, de penser, on est en train d'élever des enfants rois en pensant qu'ils n'auront pas de problème plus tard
ben,
à être
ça.
Comme ils sont. Voyons donc.
Ben, puis c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, quand on fait ça, encore une fois, on est en train de régler un problème à court terme. Je m'assure que mon enfant part pour l'école avec le ventre plein. Fait que là, moi, j'avais une maman que ses enfants disaient le matin, je veux des crêpes. Un voulait des crêpes, l'autre voulait avoir une frittata. Puis elle leur cuisinait ça, là. Fait qu'elle, elle se levait une heure à l'avance pour être sûre d'être prête quand ses garçons allaient se lever pour pouvoir, tu sais, leur cuisiner ce qu'ils voulaient. Mais elle dit, oui, mais moi, c'est important pour moi qu'ils mangent puis qu'ils aillent à l'école le ventre plein parce que si je leur fais pas ce qu'ils veulent, puis, ben ils voudront pas manger. Puis là, écoute, c'est pas bon pour eux.
Tu deviens esclave de tes enfants.
Ben c'est ça. Puis là, je dis, mais là, il y a un inversement de la hiérarchie chez vous, là. Ça marche pas, là. Là, c'est ton enfant qui dicte comment ça va se passer. Oui, mais c'est important qu'ils aillent à l'école le ventre plein.
Mais
oui.
Ça, on ne s'ostine pas là-dessus, le point n'est pas là.
Mais les enfants c'est ça. D'aujourd'hui, en
mais
2024...
Mais s'il ne veut pas manger, qu'il ne mange pas, tu lui mettras une pomme de plus dans son...
Il va réaliser s'il a faim que demain matin, il faut qu'il mange la toast
ben
que tu
voilà.
as mis dans son
assiette. Ben voilà. Les enfants d'aujourd'hui, en 2024, là, dans une famille moyenne, là, sont nés avec tout autour d'eux.
Ben oui.
Ils ont besoin de rien. Ils manquent de rien.
Exact.
Si on continue à les élever de cette façon-là, c'est-à-dire en enfant roi, lorsqu'ils seront adolescents, ils vont être des adolescents rois, puis arrivés sur le marché du travail, ils vont tomber sur des gens qui vont leur faire la vie dure.
Bien, parle aux gens qui sont employables présentement et qui embauchent de jeunes adultes. Il y en a beaucoup qui s'arrachent les cheveux, là.
Hey, moi, je me souviens, là.
C'est comme, ah, moi, je la veux, la job, mais... Ah, puis moi, je l'ai vécu, là, comme employeur, là. Ah, je la veux, la job, mais je veux juste le bout, le fun de la job.
Mais non, ça marche pas comme
t'sais,
ça.
T'sais, fait que...
Tu sais, chez Ronald McDonald, là, hey, Mario, je peux-tu prendre. Mario, que t'as rencontré.
Mais oui.
Je peux-tu prendre mon congé vendredi? C'est ma fête. Non.
Ben non. Ben non. On va te célébrer ça. Viens travailler, donner des croquettes.
C'est ça. Je vais te faire souffler chanter si tu veux. Là,
mais là, aujourd'hui, c'est. Attends un peu, là, c'est la fête d'une de mes amies. Il faut que je prenne congé. Ouais.
Ben
l'employeur
oui.
accepte ça.
Ah non, c'est
t'sais,
ça.
Je veux dire, non,
c'est
non.
comme. Je veux la job, mais je ne veux pas que je travaille après 4 heures, puis je ne veux pas travailler les fins de semaine. Pourquoi? T'as quelque chose de spécial? Ah ben non, moi, je veux avoir mes fins de semaine à moi. Mais tu sais, on le voit. Puis à quelque part, comme parents, sur le coup, quand on est là puis qu'on essaie de tout faire pour que notre enfant ne soit pas frustré, ne vive pas d'inconfort, bien, en bout de ligne, ce qu'on est en train d'y enseigner, c'est les inconforts, c'est pas normal. Écoute, la semaine dernière, quelqu'un m'écrit, puis... une bonne maman, là, c'est juste qu'on est comme rendu dans une espèce de mode comme ça où elle questionne l'intervention de l'école. Dans l'école où ses enfants vont, ils ont une problématique de touche-pipi. Les enfants sont partis sur une espèce de mode de on pogne les fesses, on pogne les seins des autres, on se trouve bien drôle.
Ça semble que c'est à garderie, ça, d'habitude.
Oui, bien, eux autres, ils ont pogné ça un peu plus tard, ils sont rendus à 8-9 ans.
T'as pas de même au Maurice dans le temps?
Oui, il y a des claques à gueule qui se sont données aussi. Mais, tu sais, bon, fait que là, l'école, à juste titre, dit, bien là, on peut pas laisser ça passer, ça n'a pas de bon sens, les notions de consentement. Et ils ont une espèce de gradation dans cette école-là d'intervention. Fait que première intervention, le prof intervient, donne une sanction, discussion avec le jeune. En tout cas, et dans la gradation, à un moment donné, quand ça se reproduit, c'est on va devoir aviser tes parents et c'est toi qui vas devoir appeler tes parents pour leur dire ce qui s'est passé. Et là, la mère trouvait que c'était humiliant. Fait que me demande mon avis sur ça a-tu de l'allure ce que l'école fait? Est-ce que je devrais intervenir auprès de l'école? Parce que moi, je veux pas que mon enfant se fasse humilier.
Mais ça le responsabilise.
Ben oui. C'est ce que je lui disais. C'est comme, je comprends que ton garçon, s'il fait ça, il va vivre un inconfort. C'est vrai que ça va être gênant. C'est vrai que ça va peut-être même être un peu humiliant pour lui. Mais il assume ses actions.
C'est le point.
Mais à qui on a confié nos enfants à l'école? Des fois, je me pose des questions. Il y a de ça quelques années, on avait demandé à Ricardo Larrivé, on avait demandé à un architecte, là, qui est un grand architecte au Québec reconnu, et on avait demandé à Pierre Lavoie de bâtir des labs-écoles.
Oui.
Puis je me souviens, je pense qu'on en avait parlé dans une chronique il y a de ça quelques années, c'est un peu les psychologues, les gens qui sont directement auprès des enfants sont où, là? Il y en a juste trois, puis il n'y en a pas un qui travaille auprès des enfants, là. Bon, peut-être Pierre Lavoie, qui est, avec le rendez-vous Pierre Lavoie, les cubes énergétiques et tout ça. Non, c'est ça. Mais n'en demeure pas moins qu'il n'y avait pas d'SOS Nancy qui avait été consulté pour les labs écoles. Puis finalement, ben, ça s'est avéré être un fiasco. Mm-hmm. Le gouvernement a arrêté de subventionner ce type d'école-là. Mais à qui on a confié nos enfants pour qu'on les restreint au point tel que sur l'heure du midi, ils n'ont pas le droit de se parler entre eux?
Ah non, c'est fou. Puis, tu sais, puis en même temps, tout le monde, tout ce beau monde-là veut le bien des enfants. Là.
Ils veulent le bien des enfants, ils veulent leur bien parce que là, ça crie trop l'heure du dîner.
Ben, en fait, ils veulent. Non, non, mais c'est vrai que ça crie, là. Ça, je veux dire, fait que t'as des enfants qui auraient besoin de calme sur l'heure du midi.
Tu dis non, Audrey.
Mais je dis non pour une simple raison.
J'ai fait de la restauration pendant des années et des années.
Je t'entends.
Puis très souvent, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, c'est important de le mentionner. J'étais en crise après les parents parce que la première affaire qu'ils faisaient, c'était de donner le cellulaire aux enfants.
Ah, okay? Ça,
pour avoir la maudite paix au
restaurant. Mais là, ton point, c'est à qui on confie nos enfants dans les écoles. Je pense pas que c'est du mauvais monde qui travaille dans les écoles. Mais je pense qu'effectivement, le cercle vicieux dont on parlait tantôt, où à un moment donné, ces gens-là sont tellement dépourvus puis découragés parce qu'il y a un manque de ressources pour les aider, qu'ils mettent en place des affaires qui n'ont pas de bon sens. On est d'accord. Sauf que ça part pas d'une mauvaise intention, ça part d'une détresse puis d'un manque de ressources.
Fait qu'on y va tout le temps avec des restrictions jusqu'à temps que les enfants ne leur respirent rien, ça comme pas de bon sens.
C'est ça que je pense qu'il faut prendre du recul et réfléchir.
C'est tolérer sur l'heure du midi, les enfants changent de job, là.
C'est pas... Mais attention, moi, des profs mal intentionnés, là, je pense qu'en carrière, ou tu sais, des profs vraiment intolérants puis qui n'aiment pas tant les enfants.
J'en ai pogné des profs fatigués, moi. Au secondaire, là, j'en ai pogné des profs fatigués qui étaient écœurés d'enseigner, qui regardaient l'âge de retraite puis disaient j'ai assez hâte d'y arriver. Puis toujours la même matière, présentée toujours de la même façon. Puis s'il y en a un qui avait des difficultés, ben là, c'est parce que tu n'as pas assez étudié, mais du temps supplémentaire, non, moi, je finis à 16h. Je suis désolé, mon grand.
Mais je n'ai vu, moi, puis je n'ai rencontré deux de ça. Mais des profs extraordinaires, extrêmement dévoués, je dois en avoir rencontré une centaine, sinon plus.
Ah, j'en doute pas.
Tu comprends? Fait que la grande majorité des enseignants aiment leur job, aiment les enfants, veulent leur bien. C'est juste que parfois, les interventions qui sont mises en place, c'est des interventions plaster. C'est des interventions qui règlent un problème à court terme, mais en créent un autre. Puis je pense qu'il faut que le milieu scolaire prenne du recul et se questionne puis se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec les effectifs qu'on a, avec les moyens qu'on a pour enseigner aux enfants les habiletés qui vont leur permettre d'avoir plus de liberté par la suite. T'sais, fait qu'on prend l'exemple du ballon au point.
Ouais.
Ben, tu sais, est-ce qu'au lieu d'enlever le ballon au point pour qu'il n'y ait pas de chicane, est-ce qu'on est capable de dégager quelqu'un qui va aider ces jeunes-là pendant une couple de récréation pour avoir des outils de gestion de conflit plutôt que d'enlever le ballon point.
Je trouve ça tellement décourageant parce que j'ai l'impression qu'on revient encore à un problème plus grand qui est le système d'éducation. T'sais, on revient au privé versus le public, à la liberté aussi que les écoles ont pour agir. T'sais, c'est plate à dire, mais souvent, tu observes que dans le privé, les décisions peuvent se prendre plus rapidement à l'interne puis on peut en faire des changements comme ça.
Oui, ou dans des plus petites écoles, c'est plus facile aussi, totalement. Parfois. Mais t'sais, on parle du système scolaire puis on parle des écoles, mais je pense que c'est beaucoup plus global comme adulte, puis même, tu sais, chez les intervenants, tu sais, les intervenants qui disent « faites attention à ne pas... » Tu sais, il y a des écoles présentement qui ont comme consigne de ne donner aucune sanction.
Quel genre de je verrais folle. Trop friche. De juste... Je peux pas avoir d'enfant.
de juste y aller par la valorisation des bons comportements puis par les récompenses ou par les, le renforcement positif.
Mais c'est pas des chiens, ils sont plus intelligents que ça.
Ben c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Puis c'est pas vrai que ça fait du sens pour un humain que je peux faire n'importe quoi et j'ai jamais d'inconvénients.
Mais SOS Nancy, ces décisions-là viennent d'où? Parce que là, c'est là où je voulais en venir tantôt. Là,
de monde bien intentionné.
Ricardo, il est bien gentil. Pierre Thibault, il fait bien des belles maisons puis des belles bâtisses. Puis Pierre Lavoie, bon, c'est un bon sportif puis il en fait beaucoup pour le Québec. Mais des gens qui travaillent auprès des enfants auraient dit à cette école-là, savez-vous quoi? Ce que vous êtes en train de créer, ça n'a comme pas de bon sens. Là.
Ouais.
C'est à qui qu'on confie le système scolaire pour qu'ils décident pour nos enfants? Je comprends pas.
Puis tu sais, mais c'est parce que c'est pas juste le système scolaire. Ouais. Mais en fait,
ça te donne la job en même temps.
Oui, c'est ça. Je continue de penser qu'il y a trop d'approches qui manquent de nuances. On part d'un extrême où on était dans de la multiplication des sanctions. Tu sais, puis moi, il y a une couple d'années, là, je voyais encore des écoles que ce qui appliquait quand les enfants se conduisaient pas bien dans la cour de récré, c'est va faire le piquette en avant du mur. Puis là, je me disais.
Je l'ai fait.
Oui, mais tu comprends que tu n'apprends pas grand-chose en faisant
des
piquettes.
J'ai fait des copies aussi.
Ah, oui, ça, j'en ai fait.
J'en ai fait aussi.
Je ne dis... Ça t'a pas rendu plus brillant. Là. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça qui a fait de toi un
je
bon humain.
Je n'écrirai plus après mon ami 150 fois.
C'est ça. Mais on s'entend là, que c'est pas ça qu'on veut. Mais des fois, en réponse à ça, on va carrément à l'inverse.
À l'opposé, oui.
Puis là, c'est comme, ben, y a plus, le jeune peut envoyer promener son prof, puis ben, la seule sanction qu'il y aura, c'est qu'il n'y aura pas son collant à la fin de la journée. Mm-hmm. Ben, ça ne marche pas. Là,
j'ai tellement d'empathie pour ces gens-là qui gravitent autour des jeunes, autant les parents, justement, que les enseignants, parce que c'est difficile. Là. Ça prend un bon caractère comme adulte pour être capable de tout le temps réfléchir avant de poser une certaine action. Puis c'est parce que chaque action que tu poses, justement, un reflet sur ce que l'enfant va apprendre, va retenir.
Ben oui. Puis il faut prendre ce recul-là, puis arrêter d'essayer d'espérer qu'il y ait une petite méthode toute simple qui va faire, qui va marcher avec tous les enfants, puis qui va régler tous les problèmes. Mm. Fait que, tu sais, c'est cute le renforcement positif. C'est vrai, tu sais, que c'est bon pour l'estime de soi de dire à l'enfant, hey, c'est le fun ce que tu as fait, bravo, etc.
Mais ça fait pas tout.
Mais c'est pas vrai que ça règle tout le problème.
Fait contacter SOS Nancy.
Ben, voilà ton programme.
Venez voir la fermeté bienveillante.
Ton programme SOS Opposition, c'est pour les parents d'enfants qui sont opposants. Ça commence quand? Comment ça fonctionne? On fait comment pour te rejoindre?
Là, allez sur ma page Facebook SOS Nancy Coaching Familial ou trouvez-moi sur Instagram. Et il y a présentement 3 ateliers gratuits. Donc, pour que les gens aient une idée, justement, de c'est quoi l'approche, c'est quoi notre philosophie. Jeudi soir, on a un premier atelier gratuit sur, justement, comprendre la différence entre l'opposition puis des troubles d'opposition.
Ça s'adresse à tout le monde.
Oui. Aux parents d'enfants qui ont des enfants opposants, mais aussi aux intervenants qui travaillent auprès des enfants qui ont des troubles de comportement.
Je peux-tu envoyer ma blonde aussi à des troubles d'opposition, des fois?
non, c'est ça. Je sais pas si je parlais, je suis sûre qu'elle dirait qu'elle voudrait t'envoyer toi.
J'ai un collègue qui a un petit... Je peux-tu?
Oui.
Oh,
oui. Ouais, c'est ça. Bref, il y a un premier atelier là, il y a un autre atelier où c'est plus du coaching en direct, donc on va répondre aux questions des gens.
Cool.
Puis un dernier où on va présenter vraiment le programme. Mais le programme SOS Opposition, là, ça c'est vraiment pour les parents qui ont des enfants qui présentent des troubles de comportement, qui sont explosifs, donc beaucoup de crises, qui ont peut-être des comportements violents, qui tombent vite dans les insultes, donc des enfants qui ont des troubles de comportement quand même important. Et c'est un programme intensif de 4 mois. Sinon, j'ai d'autres petites formations qui sont plus courtes aussi sur l'opposition, mais qui s'adressent plus à de l'opposition simple ou à des petits problèmes. Mais quand on a un enfant qui a vraiment des gros problèmes, qui vit des expulsions scolaires à répétition, qui a beaucoup d'insultes à la maison, bris d'objets, des fugues, etc., là, on a notre programme qui est beaucoup plus costaud. Là.
Madame SOS Nancy, merci beaucoup d'être passée, Nancy Doyon.
Ça m'a fait plaisir. À la prochaine.
SOSNancy.com. 11h15, on vient. Reg Against le Matin.